centré sur l'évaluation, donc on va suivre l'ordre des épreuves. On commencera par l'épreuve de 41 et notamment sur les sujets 0. Nous continuerons avec les épreuves E42 et E5 qui, dans leur définition, se ressemblent beaucoup, à la fois dans la constitution des dossiers, les critères d'évaluation et l'évaluation par profil à proprement parler. L'épreuve 6, plus nous étendrons à des éléments qui sont connexes, le rôle du passeport professionnel, ce qui nous semble qu'il y a des rappels à effectuer, le rôle des stages et puis à votre compétence, des questions que vous devriez nous remonter. Voilà, alors on va commencer par l'épreuve 41. Donc vous avez eu à votre disposition deux sujets 0. Le premier, Garden Wood, a été conçu donc, par quatre professeurs de techniques différentes, Frédéric Dessin, Eugénie, Jean-Philippe Millier, Nadine Simona. Et puis un deuxième sujet, le cabinet DJFC Expert, Eric Brunarius, Dominique Lagarde, Jean-Marie. Les relectures ont été assurées par Denis Lefebvre, Marie-Agnès Lestrade et Daniel Perrin-Tonin. Je remercie à la fois les auteurs et les relecteurs pour leurs précieuses contributions. Quelques points par rapport aussi à ces sujets, donc l'épreuve le 41. On vous demande peut-être un point pour le bon fonctionnement de cette visioconférence et puis j'ai un retour aussi dans les oreilles. Il faudrait que vous coupiez votre micro, vos micros, pour éviter qu'on ait un effet retour et puis qu'il y ait des larcènes peut-être dans certaines académies. Voilà. Si vous pouviez couper les micros. Puis on vous ouvrira le micro lorsque vous voudrez poser une question. Voilà, donc quelques éléments par rapport à la définition de l'épreuve. Tout d'abord, les objectifs de cette épreuve, hein, c'est de permettre au candidat de montrer comment il s'est approprié un contexte professionnel, des démarches et des procédures, et puis également de s'insérer dans un système d'information comptable. Le deuxième objectif, c'est d'effectuer les traitements pertinents relatifs aux obligations comptables, fiscales et sociales. Donc on est sur un objectif ici de technicité, il faut que les candidats puissent nous démontrer leur technicité. Un troisième point qui est avec la mise en œuvre des procédures de travail, de contrôle et des normes en vigueur, donc s'assurer effectivement que les candidats sachent bien mettre en place des procédures de contrôle, contrôle également les démarches, l'utilisation d'une documentation de référence qui est jointe en annexe du sujet, et puis la capacité à justifier ses choix. Un deuxième point par rapport au contenu. Donc le contenu de l'épreuve 41 permet de valider par sondage des éléments de compétences du référentiel relevant des processus P1, P2, P3, P4, mais aussi P7. Hein. Vous avez vu que dans les deux sujets, on va chercher P7, c'est-à-dire des compétences de P7 qui peuvent être évaluées à l'écrit. Simplement, de ces processus, on exclut quelques activités parce qu'on estime, on a estimé au moment de la structuration des épreuves qu'il était plus pertinent d'évaluer les étudiants, les candidats sur ces activités, donc d'autres épreuves, notamment l'épreuve 6 dont on parlera tout à l'heure. Il s'agit des activités A1, A17, A21, A28, A31, A4A et A44, et puis deux composantes d'activité de P3. Ce sont des activités qui concernent essentiellement la veille et puis la caractérisation et l'analyse d'un processus comptable quel qu'il soit, on en reparlera tout à l'heure. Bon, les critères d'évaluation, vous les avez dans le référentiel, on ne va pas y revenir. Et puis, la modalité donc, de l'évaluation, donc, c'est un sujet, donc, une épreuve de 4 heures, qui prend appui sur un ou plusieurs cas concrets, avec des parties qui peuvent être ou non indépendantes. Et là, on a effectivement des parties, dans les deux sujets 0, des parties qui sont indépendantes les unes des autres. Et on précise également les éléments de structuration du sujet. Voilà. Et puis ensuite, vous avez la composition de la commission de correction. sous la structure des sujets, donc le cahier des charges qui a été fourni aux auteurs des sujets zéro, mais qui sera fourni également, enfin qui est fourni d'ailleurs maintenant aux auteurs des prochains sujets de 2017. On a des sujets qui sont en quatre parties. Donc la première partie consiste en une présentation du contexte associé à la situation, grosso modo le contexte du cas. Ce contexte, il est volontairement simplifié, il est didactisé pour le rendre accessible aux candidats. Simplifié parce qu'on préfère effectivement les évaluer plutôt sous les compétences du référentiel que sur la compréhension du cas en lui-même. Et puis, on peut avoir des schémas, et vous l'avez vu dans le premier sujet zéro, Garden Boot, on peut avoir la représentation d'un processus, de processus comptable d'ailleurs, en prenant appui sur des savoirs associés à V7. Ensuite, une deuxième partie donc du sujet consiste en la formulation des missions à réaliser. Le lien entre la mission et le processus, tel qu'il est décrit dans le référentiel, est assez fort. En tout cas, dans les deux sujets zéro, on peut avoir aussi des sujets dans lesquels peut-être des processus seraient fixés au sein d'une mission. On verra à l'expérience. Cette possibilité est envisageable. Pour l'instant, effectivement, on a plutôt des missions qui sont centrées sur des processus, des missions P1, mission P2, mission P3, mission P4. Vous avez vu, et c'est des questions qui nous sont assez souvent posées, que les missions sont relativement peu guidées parce qu'on souhaite évaluer les candidats non seulement sur leurs compétences techniques, mais également sur leur capacité à choisir le comment faire. Les candidats vont être évalués sur le faire, mais aussi sur le comment faire. À Bac+2, la demande remontée, c'est celle entre guillemets d'une autonomie du diplômé quant à la capacité ou quant à la mobilisation de telle ou telle technique. Donc c'est un élément assez fort aussi de la conception des sujets, c'est-à-dire de relativement peu guider les candidats dans le choix de telle ou telle technique. Une troisième partie qui intègre la documentation comptable, financière, fiscale et sociale associée à la situation, qui vient enrichir le contexte. Cette documentation intègre les pièces comptables relatives aux différentes missions, des informations décrivant les travaux comptables à effectuer, et puis également des informations qui viennent expliquer les choix que l'entreprise ou l'organisation a pu effectuer à un moment donné et dont le candidat doit tenir compte pour effectuer son travail et remplir les missions. Et puis, une quatrième partie qui consiste en la présentation d'extraits issus de la réglementation comptable, financière, fiscale et sociale, ce pourrait être le résultat d'une veille effectuée par un... Donc on leur demande ici d'utiliser des documents qui pourraient être le résultat d'une veille. La conception d'une épreuve qui aurait intégré la veille des candidats effectuée par les candidats pendant 2 ans aurait été extrêmement compliquée à envisager. Donc là, le travail de veille est scindé en deux. Dans E4.1, on regarde effectivement comment les candidats sont en mesure de travailler à partir du résultat d'une veille. Et puis sur E6, on leur demande de présenter la démarche de veille qu'ils ont pu conduire au cours de leur formation. Voilà. Donc les candidats vont non seulement avoir à répondre aux missions qui leur sont proposées, mais aussi comment faire, en prenant appui à la fois sur ce qu'ils ont vu en cours, notamment par rapport à la structuration des processus tel qu'elle est décrite dans le référentiel et tel qu'ils l'ont vu en formation, mais également à partir de documentation comptable, financière, fiscale et sociale qui est associée à la situation. Les modalités d'évaluation, vous les avez dans le référentiel. Par exemple, vous avez des documents qui portent, des sujets qui portent sur les travaux de fin d'exercice. Les critères d'évaluation, ce sont des compétences qui viendraient qui serait extraite précisément du référentiel en termes de compétences sur le processus P2, par exemple analyser les opérations d'amortissement, de provision, etc. Bon, le barème, la question m'a été posée ce matin dans une académie. Le barème va probablement intégrer une dimension d'évaluation par compétence, c'est-à-dire qu'on ne sera pas sur c'est juste ou c'est faux, mais par exemple, c'est toujours sur l'exemple des travaux de fin d'exercice, la réalisation d'amortissement. S'il est demandé, si l'entreprise pratique les amortissements linéaires et que le candidat nous propose des amortissements sous un mode linéaire, donc alors que l'entreprise pratique les amortissements non linéaires, on pourra considérer qu'il a compris ce qu'était un amortissement, qu'il s'est appliqué, simplement il sera, entre guillemets, un peu pénalisé parce que au lieu de pratiquer des amortissements non linéaires, il a pratiqué des amortissements linéaires. C'est pas pour autant que toute sa proposition voilà. Pour terminer, quelques précautions et puis je laisse la parole aux concepteurs des sujets zéro, en tout cas à deux d'entre eux. Ce sont des sujets qui n'ont pas été testés. Hein. Le travail n'est pas rigoureusement conduit comme pour des sujets d'examen, donc peut-être allez-vous nous dire que les sujets sont trop longs, qu'il y a trop à lire, etc. Bon, la réponse est que les sujets n'ont pas été testés, que je peux vous dire également que les sujets 2017, eux, le seront, et qu'on aura une indication assez précise quant à leur longueur, et s'il faut réduire la longueur de ces sujets pour rentrer dans le format 4 heures, pour qu'un candidat moyen puisse les réaliser, le feront. Simplement, aujourd'hui, vous avez des étudiants qui sont en cours de formation, il leur reste pratiquement une année entière pour atteindre l'objectif. On peut estimer qu'effectivement, si la formation va dans ce sens, et dans le sens des situations professionnelles, les élèves vont progresser de manière assez nette pour notamment arriver à exploiter des documents tels qu'ils le sont présentés dans les deux sujets zéro. Voilà. Donc, ce qu'on a voulu, c'est vous donner des exemples de sujets tels qu'ils pourront être présentés en 2017, les choix, les arbitrages ont été effectués. On a des sujets qui répondent à la définition de l'épreuve, il y a l'esprit dans lequel ce référentiel a été construit. Maintenant, par rapport à la longueur et à la difficulté, éventuellement, on sera en mesure d'ajuster en fonction des tests. Voilà. Alors, on vous propose maintenant question qu'on s'est posée. C'est pas ça qui va faire gagner beaucoup de temps aux candidats. Ça en fait gagner aux correcteurs parce que vous avez toutes les écritures. Simplement, on formate beaucoup par le nombre de lignes dans le bordereau de saisie. Si le candidat a besoin d'aller au-delà de ce qu'on a préparé, voilà, c'est un peu les questions que vous vous posez. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y aura des bordereaux de saisie ou pas. Mais en tout cas, prenez aux candidats, enfin aux élèves, aux étudiants, que comment est-ce qu'on présente les écritures qu'on a dans une copie d'examen, voilà, ce qui n'est pas très compliqué. Voilà.
Je sens présenter le deuxième sujet zéro, normalement, mais donc le premier aujourd'hui, le cabinet des GFC experts. Donc c'est un sujet construit à partir des données de deux sujets de 4 du BTS-CGO, celui de 2010,
donc, présentation, j'ai ça.
Donc le garage Armand, et celui de 2015, hein, celui de l'an dernier, I3C. Nous avons décidé de ne conserver qu'un dossier client, afin de ne pas ajouter de difficultés aux candidats dans la compréhension du sujet.
Voilà.
Donc c'est un sujet, comme son nom l'indique, basé sur un contexte de cabinet.
Oui, c'est Jean-Michel.
La structure du sujet suit donc les quatre parties dont Jean-Michel a parlé tout à l'heure. Donc le contexte
en premier. Ils ne nous voient pas, ils ne nous entendent pas.
On commence par présenter le cabinet comptable, puis le dossier client.
Mais nous, par contre, on vous entend là, donc les voix superposent. Il faut couper votre micro vraiment.
Les missions sont présentées en suivant, okay, merci. Sur une page. Hein, donc quatre missions confiées au candidat et l'ensemble des documents fournis donc se trouvent sur les pages suivantes, à commencer par la documentation associée à la situation, des extraits issus de la réglementation et enfin deux annexes à compléter et à rendre. on remarque donc effectivement que les bordereaux de saisie ne sont pas fournis. Par contre, les en-têtes des colonnes attendues sont indiquées en page 3 de l'énoncé dans la présentation du dossier client. Donc je vais suivre l'ordre de ces différentes parties pour effectuer cette présentation. En commençant par la présentation du cabinet comptable, donc c'est une présentation qui décrit l'organisation comptable et informatique du cabinet DGFC Expert. Elle évoque notamment le tableau de répartition des tâches entre le cabinet et le client et définit la feuille de temps, document facilitant le travail collaboratif entre les différents intervenants du cabinet sur le dossier d'un client. Feuille de temps qui, pour le client Garage Armand, est donnée en annexe A1. Les deux catégories de ressources que le candidat aura utilisées pour mener à bien ses missions sont évoquées avec leur codification. Première catégorie, les documents associés à la situation, qui seront donc codifiés par la lettre A. Et les extraits issus de la réglementation en vigueur, codifiés par la lettre B. Bon, le diaporama n'a pas suivi tout à fait, mais on va y arriver. Non, avant, c'est pas...
Comme ça ?
Ouais, là c'est bon. Okay. Donc, deuxième point, la présentation du dossier client, la SAS Garage Armand. Donc c'est une entreprise qui a une activité mixte de vente de biens et de prestations de services, plus particulièrement d'achat et de vente de véhicules neufs et d'occasion, d'achat et vente de pièces détachées et de réparation de véhicules automobiles. C'est une entreprise qui utilise un PGI. Et ce PGI permet un travail collaboratif entre le garage et le cabinet, ce dernier intervenant sur les modules de comptabilité et de gestion sociale et disposant par ailleurs d'un accès en consultation aux modules de gestion commerciale et de gestion des immobilisations. Quelques particularités donc sont soulignées, à savoir notamment que forcément pour son activité de prestation de service, l'entreprise est soumise à la TVA sur les encaissements, mais elle est également soumise à la TVA sur la marge en ce qui concerne la vente de véhicules d'occasion. Elle est amenée à comptabiliser des débours également sur le carburant et les cartes grises. Le garage n'a pas d'activité de vente de carburant. Des précisions données en annexe 3. Le plan comptable global n'est forcément pas fourni, seuls les comptes spécifiques sont fournis. Pour les autres comptes, le candidat est invité à utiliser ceux du plan comptable général. Cette présentation s'achève d'une part en exposant la ligne directrice de l'ensemble des missions, à savoir terminer les travaux comptables, fiscaux et sociaux du mois de juin, conduisant à la présentation de la situation intermédiaire du premier semestre 2015. D'autre part, en rappelant au candidat que les productions attendues sont synthétisées dans la feuille de temps fournie en annexe 1.
Ils n'ont pas le diaporama. Tu as le diaporama ?
Ouais. L'émission, point numéro 3. Donc, il y a 4 missions indépendantes que le candidat doit réaliser. Dans cette description des missions, le travail à réaliser est peu guidé, mais les étapes et les démarches à mettre en œuvre sont proposées dans les annexes, notamment dans l'annexe A1, et les différents écrits professionnels, tels que les mails et le mémo qui est fourni. 2 missions font appel aux compétences liées au processus 7, il s'agit donc de formules à interpréter, formules utilisées dans une feuille de calcul à interpréter et un schéma de processus également à utiliser pour la mission de gestion sociale. Chaque mission fait référence aux différents utilisés. La première mission, elle concerne la gestion comptable, donc le processus PE. Plus particulièrement la comptabilité courante et le contrôle comptable, elles portent là-dessus. Les productions attendues par le candidat sont non comptable, d'une part l'enregistrement d'une facture d'achat de marchandises avec escompte de règlement, une facture d'acquisition d'immobilisation, c'est le fameux banc de mesure que l'on retrouvera dans la mission 4, l'enregistrement d'un règlement reçu concernant une prestation de service, donc avec TVA sur les encaissements, et enfin, une écriture concernant la correction d'une erreur décelée dans une facture avec utilisation ici du compte 467. La deuxième mission porte sur la gestion fiscale. Donc elle concerne le processus P3, mais également le processus P7. Il s'agit pour le candidat de préparer la TVA de juin 2015, de fournir des explications en ce qui concerne certaines formules de calcul contenues dans la feuille de calcul utilisée pour la préparation de la TVA de juin 2015, et enfin d'étudier l'opportunité d'exercer l'option pour la TVA sur les débits, les productions attendues concernent donc un tableau de calcul de la TVA à payer. Il s'agit de compléter une annexe, l'annexe C1. Deuxièmement, de fournir des explications à un stagiaire concernant des formules de calcul Excel. Donc il y a là un email à rédiger. Et troisièmement, donc, de rédiger un nouvel email, mais cette fois destiné au président de la SAS Garage Armand, dans lequel le candidat devra se prononcer sur l'opportunité d'opter pour les débits en matière de TVA. Troisième mission, elle concerne la gestion sociale, donc le processus 4. Le processus 7 est évoqué également au travers d'un schéma de processus. Les caractéristiques ici de cette mission concernent donc sont la préparation de la paye, notamment le calcul, on va le voir, le calcul d'heures supplémentaires et l'indemnité de journalière de sécurité sociale, et l'analyse des possibilités en matière d'aménagement du temps de travail. Les productions attendues sont donc le calcul du nombre d'heures supplémentaires à 25%, majorée à 25%, et celle majorée à 50%, et cela pour deux salariés de l'entreprise. Ensuite, de calculer le montant des indemnités journalières de sécurité sociale pour un salarié. Ensuite, de synthétiser l'ensemble de ces calculs dans une annexe à rendre, l'annexe C2. Et enfin, de rédiger une note de synthèse concernant les possibilités d'aménagement du temps de travail dans la société Garage Armand. Dernière mission, quatrième mission, c'est une mission d'assistance de gestion. Elle concerne le processus P2. Les productions attendues de la part de l'étudiant concernent le choix d'un mode d'amortissement du banc de mesure. La justification de ce choix est attendue, bien évidemment. Et ensuite, d'effectuer un certain nombre de comptabilisations conduisant au final à la présentation d'une situation intermédiaire, la situation intermédiaire du premier semestre 2015. Bon, le candidat n'a pas à présenter ensuite, à effectuer cette situation intermédiaire. Il participe simplement à l'élaboration de cette situation. Alors, il doit comptabiliser notamment des dotations aux amortissements, des immobilisations, des dotations et reprises pour dépréciation de stock, des variations de stock et un produit abonné. Également comptabiliser l'annulation d'une charge abonnée suite à la réception d'une facture. Quatrième point, documentation associée à la situation. Il s'agit en fait des annexes A1 à A20. Donc ça fait quand même pas mal d'annexes qui s'étalent sur 10 pages de l'énoncé. Elle comporte l'ensemble des documents à traiter, les procédures internes de l'entreprise, les écrits professionnels, permettant de guider le candidat. Cinquième point, extrait issu de la réglementation en vigueur, ce sont les annexes B1 à B5, donc 5 annexes. C'est une documentation donc, qui présente les textes réglementaires à appliquer. Ce sont des extraits de memento, du memento comptable et fiscal, et également un extrait de la convention collective. C'est une documentation volontairement large, car, comme l'a souligné tout à l'heure Jean-Michel Paguet, le candidat doit sélectionner les informations pertinentes pour traiter les missions. Dernier point, les annexes à compléter, à rendre, elles sont en nombre limité, il n'y en a que deux. Elles sont donc moins nombreuses que dans les sujets E4 du BTS-CGO, afin de ne pas trop encadrer le candidat dans sa démarche, limitée au tableau de calcul donc de la TVA à payer à l'étape préparatoire de la paye. En conclusion, le sujet, donc, on peut voir que le sujet sollicite peu de compétences techniques, mais requiert de la part du candidat un important travail d'analyse au travers de l'interprétation de formules de calcul, de réflexion, d'une part sur l'opportunité du choix de l'option pour la TVA, sur les débits, et d'autre part sur l'aménagement du temps de travail et de la justification d'un mode d'amortissement. On y trouve, pour terminer, certaines nouveautés du référentiel, en ce qui concerne notamment l'élaboration d'une situation intermédiaire et l'utilisation du système de l'abonnement des charges et des produits. Voilà pour cette présentation. Je vous remercie pour votre attention et m'excuse par avance aussi pour les petits problèmes techniques que nous avons rencontrés.
Voilà, est-ce qu'il y a des questions auxquelles on pourrait répondre? Alors, soit vous posez vos questions par le chat et Rosane essaye de répondre en direct. On va répondre à une en particulier qui semble récurrente, mais peut-être y en a-t-il d'autres. Soit vous intervenez, vous nous dites qui veut poser la question et vous intervenez oralement. Il suffit que vous alliez cocher « lever la main » dans la boîte de dialogue avec deux flèches, me semble-t-il, mais je n'ai pas la même vue que vous. Voilà. Alors, il y a une question qui apparaît récurrente. C'est la place du professeur Pesset dans les commissions d'interrogation. Alors, pour être très, très clair, un professeur Pesset, je ne sais pas ce que c'est. C'est un professeur, de toute manière, quand c'est une Pesset, il y a un autre processus, compte tenu des préconisations qu'on avait pu donner lors des précédentes réunions. Ensuite, vous avez bien perçu que l'objectif, c'était bien d'intégrer P7 au processus métier. La connaissance des systèmes d'information et les ressources numériques au processus métier. Et donc, on ne veut surtout pas qu'effectivement P7 soit perçu comme isolé de ces processus métiers, mais bien au contraire, P7 est intégré au processus P1, P2, P3, P4. Et là, on évalue des compétences qui sont de l'ordre de P7, mais dans le cadre de situations qui relèvent de P1, P2, P3, P4. Dans l'écriture des référentiels, on a eu cet effort dans l'ensemble des processus métiers, enfin de P1 jusqu'à P6 plus exactement, de pouvoir intégrer des résultats qui venaient de P7. Et donc, l'étude de cas telle qu'elle vous est présentée traduit cette intention, c'est-à-dire qu'on évalue des compétences qui relèvent de P7, mais parce qu'on en a besoin dans P1, P2, P3, P4. Voilà. D'autres questions? Alors, il suffit que vous posiez la question soit par le chat, soit par... Alors, ouais, question de la réunion, je crois. Doit-on s'attendre à trouver systématiquement un volet communication, rédaction d'un mail, d'un courrier ou d'une note La dimension communicationnelle, la dimension communicationnelle du BTS est évidemment très forte. Ça a été rappelé par Jean-François Rigaud tout de suite. Il y a non seulement une dimension technique, mais également une dimension communicationnelle, à la fois pour expliquer les résultats que l'on obtient, mais également comme un moyen de documenter ses choix, d'expliquer ce que l'on a fait, d'expliquer à un tiers la manière dont on s'y est pris. Donc cette dimension communicationnelle apparaît dans ces deux aspects, à la fois analyse du résultat, alors c'est vrai quelles que soient les épreuves, mais également comme étant un moyen d'expliquer à un tiers la manière dont on s'y est pris. Alors ça apparaît ponctuellement, on n'aura pas systématiquement des questions de communication, mais il nous semble essentiel de pouvoir renforcer la communication à l'écrit dans l'étude de cas, et puis oralement, on en reparlera dans les épreuves suivantes. Voilà, d'autres questions ? Rosane, est-ce que tu as vu des questions ? Auxquelles on pouvait répondre.
Attends, le référentiel de P4 mentionne un traitement de la maladie sans déduction des IJSS.
Oui, alors on ne va pas rentrer dans le détail technique. Je vous l'ai dit, il y a peut-être des scories dans les sujets. On reconnaît bien volontiers, compte tenu du travail qui a été réalisé en très peu de temps par les auteurs, que je remercie une nouvelle fois encore. Donc il y a peut-être effectivement des points qui sont limites, mais ce n'est pas l'esprit dans lequel on a travaillé. Ce qu'on a voulu montrer au travers des sujets zéro, c'est uniquement la manière dont le sujet était structuré et les compétences qui étaient attendues des étudiants, enfin des candidats. On nous parle de la plateforme magistère. Rosane, qui anime cette plateforme, nous dit qu'elle est ouverte. Voilà, elle s'étoffe au fur et à mesure. Je vous incite également à aller voir sur le site du CRCF. Il y a des ressources assez intéressantes sur la manière dont on peut extraire des données, la base de données du PGI, et les traiter ensuite sous tableur, par exemple. Donc il y a des ressources qui existent à différents moments. Et si les académies, enfin peuvent aussi contribuer en déposant des ressources, vous le savez, sous l'espace académique du CRCF. Voilà, d'autres questions sur le premier sujet zéro. Est-ce qu'il y a des questions? Il suffit que vous m'indiquiez si vous êtes prêt à poser une question et on y va. Voilà, Rosane vous décrit l'accès à la plateforme magistère.
On l'a ouvert en libre. Sans académie.
Voilà. Bon, on a un petit problème technique du côté par parler de E5 qu'on va traiter ensemble parce que finalement le fonctionnement de ces deux réponses, etc. À bientôt.